Bienvenue sur Stratpol, nous sommes le vendredi 29 mars 2024, c'est notre bulletin numéro 179 et nous sommes toujours à Moscou. N'hésitez pas à aller, avant de commencer cette vidéo, voir en description comment vous pouvez nous aider sur Tipeee, Patreon, Paypal, canal Telegram payant. N'hésitez pas non plus à vous procurer Ukraine, pourquoi la Russie a gagné, qui fait suite à Ukraine, pourquoi la France s'est trompée, et pourquoi pas également le livre noir de la gauche française. Il y a des sujets qui se recoupent, hein, notamment ce fanatisme de la gauche bourgeoise française pour la guerre, voilà, et ce mépris pour la vie de nos soldats. Vous pouvez évidemment, vous devez vous abonner à notre partenaire Géopolitique Profonde. Donc là, c'est le numéro du mois de février, mais le numéro du mois de mars est sorti, mais il n'est pas encore arrivé à Moscou. Voilà, donc n'hésitez pas à vous inscrire. C'est aujourd'hui le Vendredi Saint, donc je vous souhaite un pieux Vendredi Saint et d'avance, eh bien, de joyeuses et saintes fêtes de Pâques. Commençons tout de suite par les nouvelles économiques et on va parler de charbon avec Bloomberg qui fait l'analyse que, en fait, le déclin du charbon va être lent. Le au revoir du charbon va être très lent et ça, c'est pas étonnant puisqu'il y a une grande demande d'énergie pour tous ces nouveaux pays d'Asie essentiellement en train de s'industrialiser rapidement et massivement. Et donc un chiffre intéressant, notamment que donne Bloomberg, eh bien, c'est que aujourd'hui, en 2020, la moitié de la consommation de charbon, donc pour la production d'électricité, c'était l'Occident en fait, et que aujourd'hui c'est 70%, c'est l'Asie, c'est les nouvelles puissances essentiellement, l'Inde, la Chine et l'Indonésie. On en avait déjà parlé l'année dernière, la Russie également a décidé de se remettre au charbon en mettant en place des systèmes pour filtrer les fumées, tout ce qui peut être toxique, mais il est évident que cette énergie a encore un bon avenir devant soi et ça représente aujourd'hui un tiers de la production d'électricité mondiale. On voit sur ce tableau les nouveaux projets de centrales électriques qui vont être construites, encore une fois, particulièrement en Asie. Aujourd'hui, la production d'électricité par le charbon représente un tiers de la production d'électricité mondiale. C'est une bonne nouvelle également, eh bien, pour nos amis de la République populaire de Donetsk, hein, qui font désormais partie de la Fédération de Russie. Et d'ailleurs, les objectifs ont été fixés, c'est d'augmenter par 3 ou 4 la production annuelle de charbon. Hein. Rappelons que, le Donbass, bassin houiller du Don, c'est un grand producteur de charbon. C'est pour ça d'ailleurs que l'industrie de l'Empire russe s'est construite notamment dans cette région. Microélectronique russe maintenant, c'est un sujet dont nous parlons souvent. Donc cette capacité de retrouver sa souveraineté en matière de semi-conducteurs est un des principaux objectifs de la Russie. Ça va pas être facile, notamment pour la très basse nanométrie. Là, je pense que Moscou se tournera davantage vers la Chine, mais en attendant, eh bien, sur les systèmes, les micro-circuits plus accessibles technologiquement, comme ceux que vous trouvez dans les véhicules, dans les armements ou dans les cartes à puces, eh bien, tout ça progresse bien et de nouvelles lignes d'assemblage de micro-circuits viennent d'être lancés dans la société Micron, hein, qui est le principal producteur de semi-conducteurs russes, donc avec évidemment de grosses aides gouvernementales. Et donc le but, c'est de fabriquer jusqu'à 18 millions de micro-circuits par an. Donc de ce côté-là, les choses vont bon train. Semi-conducteurs toujours, et cette visite extrêmement intéressante du Premier ministre néerlandais, Mark Rutte, qui est allé en Chine pour essayer d'obtenir de la part de Xi Jinping l'alignement sur les sanctions occidentales contre la Russie. Et ce qui est intéressant, c'est qu'a priori, Mark Rutte est même prêt, donc c'est-à-dire qu'il a reçu l'autorisation de Washington, à livrer des machines-outils pour faire donc avec la technologie de l'extrême ultraviolet, des machines donc de lithographie pour graver des microprocesseurs à très basse nanométrie, ce qui pour l'instant est interdit par Washington. Xi Jinping a refusé, mais pour que Washington en arrive à autoriser les Pays-Bas à proposer de livrer ces machines, ça veut dire qu'ils sont vraiment désespérés face à la Russie. Bonne nouvelle pour la coopération dans le nucléaire civil entre la France et la Russie, Framatome et Rusatome se sont mis d'accord pour produire du combustible nucléaire en Allemagne. Alors si le projet est maintenu, parce qu'on imagine que la pression va être énorme, et puis on est quand même dirigé par Emmanuel Macron, l'homme qui a sacrifié Alstom. Donc je suis assez perplexe en tout cas. Ce qui est intéressant, c'est que dans des domaines comme ça, d'autres technologies, eh bien la France a besoin de la Russie. Et la Russie a besoin de la France. Voilà. Rappelons encore une fois, la France n'a que des intérêts en Russie. Que des intérêts. Voilà. Et aucun en mer Noire et en Ukraine. Article intéressant dans le Wall Street Journal qui explique que les pays européens vont devoir faire le choix entre les dépenses militaires et préserver les dépenses sociales. Donc évidemment, là, on pense immédiatement à la France. Je pense que de toute manière, la France n'aura bientôt plus les moyens ni de faire des dépenses sociales, ni de faire des dépenses militaires, et que de toute manière, ce sera toujours le ministère de la Défense qui servira de variable d'ajustement. C'est pour ça que toutes les grandes promesses, les discours de Le Cornu sur l'augmentation du potentiel industriel, etc. Bon, j'aimerais que ce soit vrai, ou qu'au moins le conflit ukrainien puisse servir à ça, c'est-à-dire, bah, par exemple, qu'on retrouve notre souveraineté en matière de poudre à canon. Mais je suis très sceptique. Et puis, je vous envoie également à l'excellente vidéo sur la dette française de Marc Watty, hein, que j'ai souvent recommandé, qui dresse un constat bien malheureusement réel. Bon, c'est une véritable catastrophe. Il propose toute une série de réformes. C'est un peu ce que Vladimir Poutine avait fait quand il est arrivé au pouvoir. Simplification fiscale, baisser les impôts pour augmenter l'assiette fiscale, donc provoquer un sursaut de productivité dans l'entrepreneuriat. Je pense malheureusement que le discours raisonnable de Marc Touati est tout à fait inaudible et que finalement le système socialiste français n'est pas plus réformable que le système socialiste soviétique dans les années 80, et donc ça finira par un effondrement économique, et à partir de ce moment-là, eh bien, on pourra peut-être faire, comme avait commencé à le faire Yevgeny Primakov, plus Vladimir Poutine, des réformes économiques de fond et de refaire de la France une économie de marché. Voilà, ce qu'il nous faut, c'est un Deng Xiaoping ou un Deng Xiaoputing, comme je le dis dans mon livre. C'est ça dont la France a besoin, sortir du socialisme. Politico-diplomatique maintenant, eh bien, la nouvelle, triste nouvelle, c'est que nous commémorons le début des bombardements de l'OTAN, de l'organisation terroriste d'Atlantique Nord sur la Serbie, donc qui ont commencé le 24 mars 1999. Je vous recommande les multiples interventions du colonel Hogard à ce sujet sur différents médias, qui vient d'ailleurs également de sortir un livre sur la question ukrainienne. Là aussi, alors j'ai pas encore eu le temps de le lire, mais je vais le lire et j'en ferai un commentaire. Intéressant aussi, j'en avais déjà parlé, mais le tragique pacte 1944, hein, ça renvoie, on voit que finalement ce qui s'est passé en 99, c'est un peu l'écho de ce qui s'était passé en 44. Pourquoi Belgrade a vu tomber plus de bombes alliées que nazis de Miloslav Samardžić. Voilà. Ça aussi, c'est important de le rappeler. Ce qui est important aussi par rapport au conflit actuel, c'est de rappeler que c'est une victoire serbe. Parce que l'OTAN, après 78 jours de bombardement, n'a pas osé aller attaquer les Serbes sur le territoire serbe, que ce soit au Kosovo ou dans le reste de la Serbie. Donc, et d'ailleurs, Milosevic a obtenu ce qu'il voulait après les bombardements, ce qu'il voulait avant les accords de Rambouillet, en fait, n'ont fait qu'entériner ce que Milosevic avait demandé. Et c'est donc la première défaite de l'OTAN, parce que à l'époque, les armées de l'OTAN, qui étaient pourtant bien plus puissantes qu'elles le sont maintenant, n'ont pas osé aller attaquer la petite Serbie, parce qu'ils avaient peur des Serbes. Donc imaginez aujourd'hui ce que ça donnerait face à l'armée russe, qui est la première armée du monde, avec une expérience de 2 ans, du matériel extrêmement adapté, efficace, qui finalement ne cède quasiment rien en technologie à celui de l'OTAN. Donc raison de plus pour bien se rendre compte que l'Ukraine a perdu et que rien ne peut être fait pour inverser la tendance, et qu'elle avait encore une fois, je l'ai écrit, perdu le 24 février 2022. Les Serbes ont donné l'exemple. Terrorisme maintenant, évidemment, le drame a été cet attentat qui a eu lieu au Krokus City Hall pendant un concert. Donc un attentat qui a été exécuté par des terroristes islamistes et organisé par Kiev et donc par la CIA ou la MI6 ou les deux. Ça, j'en ai été persuadé depuis le début. Je crois qu'en Russie, tout le monde en est persuadé. Alors, je vais rappeler un peu ce que j'ai dit depuis le début, donc que ce soit sur Twitter ou les interviews que j'ai données sur RT. Tout d'abord, il faut bien comprendre que l'Ukraine est un repère terroriste de toutes les obédiences. Vous avez bien sûr les bandéristes, encore une fois, les trois héros de l'Ukraine contemporaine, ce sont trois terroristes qui ont été terroristes soit contre l'administration polonaise de l'ouest de l'Ukraine, soit au service des Allemands pour faire régner la terreur dans les populations civiles, juives, polonaises, russes, et même on les a envoyés d'ailleurs en Slovénie, en Slovaquie. Donc c'est l'exercice du terrorisme comme la gauche révolutionnaire française, hein, l'a fait en Vendée, à Nantes, à Lyon, par exemple. Donc là, on est dans, en fait, le terrorisme d'État. Donc ça, c'est quelque chose qui est profondément ancré, qui est culturel dans le bandérisme, hein, et donc dans le régime qui est bien actuel. Donc ça ne fait pas peur d'utiliser le terrorisme à ces gens-là. Les actes terroristes, ils en ont fait depuis le début, et d'ailleurs ça a été reconnu récemment dans une interview par Malyuk, donc qui est le chef du SBU, c'est l'espèce d'abwehr de Gestapo ukrainienne actuelle, et qui a reconnu les différents assassinats, Daria Dugina, le député, le réfugié politique ukrainien Kiva. Donc ça avait déjà été reconnu par le chef du renseignement militaire, Budanov, on en avait parlé. Et ensuite, tout ce qui se passe aujourd'hui, notamment sur la ville de Belgorod, c'est du terrorisme. Les tirs de roquettes sur la ville de Belgorod n'ont aucun objectif militaire. Autant bombarder un réservoir de carburant, de pétrole, une raffinerie, une centrale électrique, ça peut être considéré comme un acte de guerre, puisque effectivement, ça gêne la logistique, l'approvisionnement, ça paralyse une partie de l'économie. C'est tout à fait, ça je le concède tout à fait, que ce soit côté russe ou côté ukrainien. Donc ça ne pose pas de problème. Mais bombarder une ville délibérément, où il n'y a aucun objectif militaire, ça c'est du terrorisme. Donc encore une fois, le terrorisme pour le régime kievien, pour le bandérisme, c'est quelque chose de normal. C'est important de le comprendre. Et donc, à partir de Maïdan, l'Ukraine a accueilli tous les gangs possibles et inimaginables de terroristes, de repris de justice. Il y a des islamistes, il y a bien sûr les bandes tchétchènes ou rattachées aux guerres de Tchétchénie qui se sont battues contre la Russie. Il y a eu également tout ce qui est structure terroriste autour des Tatars de Crimée, donc le Mejlis, donc qui est une organisation terroriste, à laquelle appartient le ministre de la Défense actuel, Rustem Umerov, donc qui est lui aussi évidemment un Tatar de Crimée, qui a été formé dans les écoles de Fethullah Gulen, donc qui est un islamiste anti-Erdogan, qui est réfugié aux États-Unis, qui a essayé d'organiser un putsch en 2015, qui a échoué, donc et qui est totalement sous contrôle de la CIA. Donc encore une fois, des islamistes, il y en a bien. Il y a également les Lougris, un groupe pan-turc, en fait pan-touraniste, qu'on retrouve un peu partout en Asie centrale, comme d'ailleurs les écoles de Fethullah Gulen. Et eux, on les a vus ouvertement avec Lenour Islianov, donc qui est un des chefs de bande tatars radicaux qui a organisé le blocus de Crimée, avec précisément Rustem Umerov, le ministre de la Défense ukrainien actuel, qui lui aussi est une créature de la CIA et qui est aussi un islamiste. Et c'est eux qui ont fait sauter les installations électriques pour essayer de couper non seulement l'électricité d'ailleurs, mais l'approvisionnement en denrées alimentaires, en eau douce, en bloquant le canal de Crimée. Donc ce sont des agissements terroristes qui sont dirigés contre les populations civiles. À côté de ça, ajoutons que l'ambassade d'Ukraine au Tadjikistan avait tenté de recruter des Tadjiks pour aller se battre dans la Légion internationale des volontaires en Ukraine. Donc là aussi, c'est quelque chose de tout à fait normal d'utiliser des bandes islamistes, des loups gris, des néo-nazis venus du monde entier. Tout ça, c'est quelque chose de tout à fait normal pour l'Ukraine. La revendication de l'État islamique, alors ça ne veut pas dire que ce n'est pas l'État islamique qui l'a fait, mais évidemment que c'est une sous-traitance qui a été organisé par Kiev. C'est d'ailleurs maintenant ce que dit officiellement le comité d'enquête russe. Donc, a priori, ils ont retrouvé des traces de transfert d'argent par crypto-monnaie. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'à cette opération antiterroriste lancée par les Russes, se sont associées des opérations antiterroristes en Turquie et au Tadjikistan. Et d'après les services secrets du Tadjikistan, l'un des frères d'un Tadjik qui a été arrêté par les Russes, eh bien, était parti combattre en Syrie avec l'État islamique. Sur ce qu'est l'État islamique, qui l'a payé, qui le finance, je vous renvoie à l'article de Youssef Findi qui a été publié chez Égalité et Réconciliation. En observant cette opération, ce que l'on en déduit, c'est que les djihadistes ont été recrutés à la va-vite. On leur a promis de l'argent. Ils n'ont pas été traités pendant des mois, comme c'est le cas, les profils un peu qu'on a vus dans le cas de Beslan, dans le cas de Nordosk. C'est-à-dire que généralement, on leur donne une épouse qui leur maintient la motivation. Ils sont accompagnés de femmes qui sont prêtes à se suicider, à se faire exploser. Ça, on a vu ça dans toute la série d'attentats qui ont eu lieu au début des années 2000, encore une fois. Et là, contrairement à ce qu'on a vu, ben, par exemple chez nous, les attentats de Charlie, le Bataclan, ils n'étaient pas là pour mourir, ils étaient là pour tuer et s'enfuir. Donc ça aussi, ça sort du mode opératoire habituel. Si on avait été dans un attentat djihadiste classique, déjà ils auraient eu des ceintures d'explosifs pour se faire tuer à la fin une fois qu'ils n'ont plus de munitions, et ils seraient restés beaucoup plus longtemps pour tuer beaucoup plus de monde. Parce qu'en plus, quand on regarde le nombre des victimes et la raison de la mort de ces victimes, on doit être autour de 150 aujourd'hui. Tués par balle, en fait, c'est une quarantaine. Les autres ont été tués par l'incendie. Donc on a quelque chose qui ne correspond pas à ce qu'on a l'habitude de voir dans ce genre d'attentats djihadistes. Avec les informations qu'on a maintenant, on peut faire quelques hypothèses. La première hypothèse que je ferais, c'est que l'attentat devait initialement non pas se produire samedi dernier, le 22 mars, mais le 10 ou le 11 mars, un concert qui était organisé au même endroit par un chanteur très connu qui fait de la pop-rock patriotique, Shaman, qui est extrêmement populaire en Russie. Cet attentat aura eu beaucoup plus de sens étant donné le public, encore une fois, qui va écouter Shaman, qui est un public assez patriotique. Et surtout, ça aurait eu lieu avant les élections présidentielles russes. Donc là, ça aurait eu vraiment un impact puisque le but, évidemment, comme les bombardements sur Belgorod, c'est de saboter l'élection présidentielle russe. Donc que le Kiev, avec la bénédiction de la CIA et du MI6 ait maintenu cet attentat alors qu'il ne servait plus à rien, montre un peu quand même le niveau de cynisme. Il est vraisemblable que l'alerte qui avait été lancée par l'ambassade des États-Unis, donc les 7 et 8 mars, à ses citoyens présents en Russie de ne pas se rendre à des spectacles, est liée à la connaissance qu'avait le département d'État américain que quelque chose allait se passer. Pas le 22 mars, mais précisément au concert de Shaman qui devait avoir lieu le 10 et le 11 mars. Voilà la première hypothèse que je fais et je pense que c'est assez documenté. Ce qu'on peut dire sur la réaction côté russe, bon, bien sûr, la réussite de cet attentat est un échec pour les services de sécurité russes, il faut bien le dire. En revanche, ce à quoi ne s'attendaient vraisemblablement pas les Ukrainiens, c'était que les Russes réussissent à attraper les quatre terroristes. Et ça, c'est la très mauvaise nouvelle. Et c'est pour ça qu'il y a eu énormément de fébrilité dans les annonces par Washington, Londres, que c'était non, c'est absolument pas les Ukrainiens, ça peut pas être les Ukrainiens, on veut pas le croire. On a l'impression que c'était leur principale préoccupation, c'est qu'il fallait surtout pas accuser les Ukrainiens. Évidemment, Vladimir Poutine a immédiatement mis en cause Kiev en disant que, dans un premier temps, que oui, bien sûr que c'était des islamistes, mais la question c'était qui était le commanditaire. Et ensuite, il y a eu des déclarations donc du Bortnikov, le chef du FSB, ensuite le chef du Conseil de sécurité nationale, Patrouchev, et finalement le comité d'enquête, le parquet russe, Bastrykin, qui ont déclaré que, eh bien, c'était Kiev qui était derrière et que des traces de paiement, donc en crypto-monnaie, avaient été trouvées. Donc derrière, bien sûr, c'est les services kieviens, avec la bénédiction du MI6, de la CIA, j'en suis persuadé. Rappelons encore une fois que le général Miley, c'était dans le Washington Post en décembre dernier. Donc le chef d'état-major de l'armée américaine avait déclaré à ses homologues ukrainiens qu'aucun russe ne devait s'endormir sans se demander s'il n'allait pas être égorgé dans la nuit. Voilà, donc on en est vraiment dans cette tradition terroriste qui a toujours été entretenue par la CIA, par le MI6, encore une fois. Réaction intéressante côté français. Donc alors là, on a vu des gens qui écumaient de joie. Ça m'a rappelé 2002, Nordosk, 2004. Là, c'était pareil, je m'en souviens encore. Il y avait donc un chercheur, Hélène Blanc, donc russophobe, Galia Ackerman, qui jubilait parce que évidemment Vladimir Poutine avait gagné la guerre de Tchétchénie. En 2002, c'était quasiment acté, et en 2004, c'était certain. Donc, de voir de nouveau des Russes mourir dans des attentats, ça prouvait la faiblesse de Poutine, et il jubilait. Et là, on a assisté au même spectacle avec Dourakov, Lev, Pierre Serville, donc tous ces gamelins. Et puis le moment incroyable avec le député En Marche, Bernard Guetta, qui avait du mal à retenir son bonheur. Donc voilà, donc ces gens-là sont, bon, c'est quasiment psychiatrique, hein. On va pas insister. Moi, ça m'a pas surpris. J'avais déjà vécu ça il y a 20 ans. Rien n'a changé, visiblement. Ce qui est intéressant aussi, c'est la manière dont ça a été présenté sur BFM TV. C'est-à-dire qu'on a un groupe de terroristes islamiques s'est attaqué à un groupe de chrétiens dans un concert à Krasnogorsk. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? Je me suis dit, mais ils étaient pas à la messe. Donc j'ai regardé un peu ce que c'était que le groupe Picnic, donc qui donnait un concert. Donc c'est un groupe qui était fondé en Union soviétique en 1982. Donc il y a peu de chances que ce soit un groupe chrétien. Et en plus, quand on regarde un peu les images, l'illustration, ça ressemble plutôt à au moins du paganisme et peut-être même du satanisme. Et d'ailleurs, dans la presse russe, ce groupe Picnic est souvent accusé de tendance sataniste. Donc là, évidemment, l'idée pour BFM TV, c'est de nous expliquer que voilà, ça y est, c'était les guerres de religion. La Russie doit se mettre avec Washington pour faire la guerre aux musulmans. Je caricature, mais en gros, c'est tellement énorme que, c'est tellement gros de sortir un truc pareil alors que c'est évidemment complètement faux. Armement maintenant, le ministre des Affaires étrangères ukrainien, M. Kuleba, et Vladimir Zelensky ensuite, ont demandé à ce qu'on leur envoie tous les missiles Patriot qu'il y avait en Europe, parce que effectivement, les Russes ces derniers temps ont tendance à les détruire systématiquement, et comme on va le voir sur la carte militaire, les bombardements massifs dans toute l'Ukraine, il n'y a quasiment plus de défense antiaérienne ukrainienne. Donc c'est la panique générale. Est-ce que les Occidentaux vont accepter ces exigences qui viennent? Rien n'est moins sûr, mais sujet à suivre. En tout cas, ça montre l'efficacité du travail dans la profondeur et dans des systèmes de contre-batterie russes. C'est dans le magazine Forbes, un petit article sur le Challenger qui nous apprend, et vous le saviez sur Stratpol, puisqu'en plus vous pouvez même le lire dans mon livre « Ukraine, pourquoi la Russie a gagné ?»« Ce char est trop lourd et n'est pas adapté au terrain ukrainien. » Nous l'avions dit dès le début, avant même le début de la contre-attaque. Et donc là, il le donne pour un poids de 71 tonnes, sans blindage réactif en plus. Donc, c'est-à-dire que on se demande à quoi ça sert. Donc évidemment, trop lourd, pas adapté pour le terrain ukrainien, tout comme le Léopard 2, tout comme l'Abrams, donc ces Abrams qui se font détruire un par un, notamment dans la zone d'Avdiivka. Stratpolisation donc de la presse anglo-saxonne. Dernière nouvelle sur l'armement, eh bien on a appris que la Russie est capable de produire désormais 12 000 bombes planantes par mois, c'est-à-dire 400 par jour, donc la Russie peut en principe déverser 400 bombes de 250, 500 kilos, une tonne 5 sur les lignes ukrainiennes. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que pour l'instant, elle ne le fait pas. Donc, c'est-à-dire qu'elle les met de côté. Donc, elle prépare sans doute ses bombes pour quelque chose de plus massif qui devrait arriver, si ça arrive, en tout cas, vraisemblablement, cet été, au moment où le sol ou le climat permettra des offensives un peu plus larges que ce que fait la Russie en ce moment. Considération militaire générale maintenant. Vladimir Poutine a déclaré que la Russie ne ferait pas la guerre à l'OTAN, que ce n'était pas au programme, mais qu'en revanche, si des bases aériennes des pays de l'OTAN étaient utilisées pour faire décoller des F-16 qui ensuite iraient attaquer l'armée russe, dans ce cas, eh bien, ces bases aériennes seraient des cibles légitimes pour la Russie. Donc ça, on l'avait déjà expliqué, le problème des F-16 qui vont être livrés, c'est qu'ils ont besoin de pistes de décollage en bon état. C'est un bon avion, un peu ancien maintenant, mais c'est un bon avion, mais il a besoin d'une logistique adaptée. Et au contraire, des MiG-29 et des Sukhoi-24 qui sont utilisés, pour ceux qui en restent, encore par l'armée de l'air ukrainienne. Donc ça pose un gros problème, surtout que les pistes de décollage en bon état, les Russes ont tendance à les repérer rapidement et à les détruire, c'est ce qu'ils avaient fait, on en avait parlé la semaine dernière. Voilà, à bon entendeur, salut. Il y a toute une série de déclarations de dirigeants ukrainiens, d'articles qui sortent dans la presse anglo-saxonne, qui ressemblent à de la panique où on nous annonce que, eh bien, il faudrait, comme le dit d'ailleurs dans le Times, de se préparer à voir Kiev tomber. Et effectivement, beaucoup de déclarations. Bon, faut prendre ça avec prudence. La prochaine échéance, on va le voir, c'est au mois d'avril. Est-ce que le Congrès américain va voter l'aide? Mes amis américains me disent que non. Bon, moi, j'ai du mal à croire que Washington va abandonner comme ça, subir cette humiliation que sera la défaite militaire face à la Russie sans essayer une ultime manœuvre ou au moins de faire durer encore le supplice qui vient. Je ne sais pas, je vais regarder ça et on en reparlera sur Stratpol. En tout cas, encore une fois, beaucoup d'articles très inquiets dans la presse anglo-saxonne et ça finit évidemment par être copié dans les médias de grand chemin français, notamment sur LCI, où on s'inquiète beaucoup. Mais vous avez raison de vous inquiéter et vous auriez mieux fait d'arrêter de soutenir la guerre et de laisser les Zelensky signer la paix en avril 2022. Grave responsabilité. Encore une fois, ceux qui ont cru un moment que l'Ukraine, même avec l'aide de l'OTAN, pouvait gagner contre la Russie, sont soit des débiles et des crétins, soit des salopards. Et dans ce cas, il est bon de s'interroger quel était le but, en fait. Et le but, évidemment, on le connaît, c'était d'utiliser l'Ukraine et les Ukrainiens comme un bélier contre la Russie pour tenter d'affaiblir la Russie. Échec total. Parmi tous ces articles, donc dans la presse anglo-saxonne, on en trouve également beaucoup qui redoutent une offensive russe d'été. Alors là aussi, je vais éviter de faire de pronostics trop nets parce que je m'étais trompé en 2022, j'ai pas l'intention de recommencer. Donc pour l'instant, ce qu'on voit en tout cas, c'est que la méthode utilisée par les Russes fonctionne bien. On avance doucement, mais sûrement, en profitant énormément de la puissance de feu, on force Kiev à envoyer ses réserves, à mobiliser donc davantage, donc à créer une crise au sein de la société ukrainienne. Donc pour l'instant, ce que font les Russes fonctionne. Ils pourraient continuer à fonctionner comme ça, offensive limitée, etc., avec des pertes raisonnables du côté russe. Ils pourraient continuer ça. Mais évidemment, il serait utile pour l'armée russe de remporter une victoire plus significative avec une percée plus en profondeur. Pourquoi pas la région de Kharkov, puisqu'en plus ça permettrait de faire une zone tampon pour empêcher les terroristes kiéviens de bombarder des villes comme Belgorod. Donc ça expliquerait aussi pourquoi eh bien, les Russes sont en train de stocker des bombes planantes et aussi l'accumulation de forces qu'on observe à certains endroits et des bombardements également sur la frontière nord de l'Ukraine. Voilà. Donc en tout cas, ce qui est clair, c'est que c'est quelque chose que redoutent les anglo-saxons, et je pense surtout le parti démocrate, parce que si la Russie réussissait une offensive plus large que ce qu'elle fait maintenant, la veille des élections européennes, la veille de l'élection présidentielle américaine, évidemment, ce serait une catastrophe pour les partis gauchistes. Alors bon, en France, ça n'aurait pas trop d'impact sur les élections européennes, puisque sur la question ukrainienne, tout le monde dit la même chose. Marion Maréchal, donc, qui est tête de liste Reconquête aux européennes, s'est jordisée ou bardélisée en expliquant que la Russie n'était pas une démocratie, hein, bien sûr, au contraire de la France, où il n'y a absolument pas d'opposition sur les grands sujets, que ce soit la guerre, la paix, l'avortement, la vie, la mort. Tous les grands partis du Parlement pensent exactement la même chose. Dernière considération militaire, les Pays-Baltes, alors l'Estonie et la Lettonie, ont demandé aux pays européens de relancer la conscription. Parce qu'effectivement, ils sont pas assez nombreux pour aller faire la guerre à la Russie. Alors ça a donné lieu à un débat en France. Personnellement, je ne pense pas que la France soit en état de relancer la conscription parce que ça coûte de l'argent d'avoir des conscrits. Il faut les accueillir, il faut les mettre dans les casernes, il faut les équiper, il faut des instructeurs. Ça veut dire qu'on change vraiment de volume d'armée. Je crois davantage en France à une véritable réserve renforcée avec des gens bien payés. Encore une fois, ça c'est la condition sine qua non. Les militaires français ne sont pas assez payés, surtout les militaires du rang, les jeunes sous-officiers, c'est tout à fait inacceptable. Donc ça, oui, ça, bon, l'idée serait plutôt de faire ça et de faire une véritable réserve. Et ce qui fait et surtout que je crois que c'est un peu le modèle suisse, c'est-à-dire quand vous avez servi dans la réserve, plus vous servez dans la réserve, plus vous avez des privilèges pour avoir accès à la fonction publique. Ce qui est un peu l'idée, c'est de remettre les militaires à l'honneur dans notre société. Un peu ce que fait la Russie, ce qu'est en train de faire Vladimir Poutine est vraiment excellent, hein. J'en avais parlé dans son principal discours de campagne devant le Congrès russe. Il avait annoncé que les combattants de l'opération militaire spéciale seraient formés pour devenir les futurs cadres de la nation. Donc c'est plutôt comme ça que je verrais, et effectivement augmenter en effectif, parce que un pays comme la France ne peut pas se permettre d'avoir une armée aussi pauvre et aussi faible. Et aussi sans doute, je pense, aussi des modifications constitutionnelles, parce que c'est pas normal que sans qu'on demande l'avis du peuple français, le régime d'Emmanuel Macron nous quasiment en face de nous un pays co-belligérant contre la Russie, contre en plus un pays qui a été un si grand allié de la France. Voilà, il y a effectivement des tas de choses à réformer dans notre armée et aussi dans notre esprit de défense et pour savoir ce qu'on veut en faire. L'armée française est là pour protéger la patrie. Elle n'est pas là pour satisfaire les guerres impérialistes de la gauche française. Encore une fois, je vous renvoie au livre noir de la gauche française. La gauche française et la guerre, depuis avril 1792, depuis la colonisation, la gauche utilise nos soldats pour répandre ses sophismes partout dans le monde. Et ça, c'est inacceptable. Mais passons maintenant à la carte des opérations militaires. Et nous revoilà sur la carte des opérations militaires. Donc, on va commencer par l'acte terroriste donc, qui a eu lieu donc, à Krokus City Hall, c'est à peu près à cet endroit-là, à Moscou. Et les terroristes sont partis par l'autoroute M3 et se sont fait attraper dans la région de Bryansk, donc qui se dirigeait vers l'Ukraine, et les Russes avaient demandé, le cas échéant, aux gardes frontières biélorusses d'arrêter la Renault si elle s'était rendue en Biélorussie. Mais c'était évidemment en Ukraine qu'ils se dirigeaient, là où était leur commanditaire. Je pense honnêtement que une fois qu'ils avaient été récupérés par les Kieviens, ils les auraient tout simplement abattus sur place. Depuis notre dernier bulletin, les bombardements dans la profondeur par l'armée russe ne se sont pas arrêtés. Là, j'ai mis les plus importants, donc du côté de Kiev. Les Russes ont notamment utilisé des missiles hypersoniques Zircon, donc tirés à partir de la Crimée, sur les infrastructures militaires à Kiev, c'est-à-dire les centres de décision, et ont tapé notamment sur les bâtiments des services secrets, le SBU, hein, l'espèce de Gestapo, le jour de leur fête d'ailleurs. Donc ça a été extrêmement efficace. Des frappes également dans la région de Kharkov sur les infrastructures électriques, ce qui fait que toute une partie de Kharkov est privée d'électricité. On a vu d'ailleurs les images la nuit, il n'y a pas de lumière. Voilà. Et au moment où je parle, donc encore toute une série de bombardements ont eu lieu dans la nuit de jeudi à vendredi. C'est pareil dans la région de Lvov. Il y a des bombardements ici où, a priori, il y avait des concentrations d'aide occidentale, et notamment peut-être une base aérienne où auraient pu être stockés les F-16. Voilà, il y a eu des bombardements de toute manière partout, et visiblement les Russes ont l'intention de détruire le système électrique ukrainien. D'après les rapports précisément de l'équivalent de l'EDF ukrainien, eh bien 50% des capacités électriques sont touchées. Ce qu'on note, c'est que les Russes ne tapent pas sur les centrales nucléaires, donc ils tapent sur les centrales thermiques, les barrages électriques, les transformateurs, mais pas les centrales nucléaires. Ce qui confirme bien que ce sont les Ukrainiens qui tirent sur la centrale nucléaire de Zaporojjé. Bombardement également dans la profondeur du côté d'Odessa. Les Ukrainiens ont vendu la peau de l'ours un peu trop rapidement en déclarant, après une salve d'une dizaine de missiles Scalp Storm Shadow, hein, les missiles à $1 million le tir, qu'ils avaient détruit deux bateaux à Sébastopol. Donc comme je l'ai dit, ils ont vendu la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Finalement, les deux bateaux sont intacts, quasiment pas touchés. Visiblement, le brouillage et la DCA russe a fonctionné. Bonne affaire. Un Sukhoi 27 s'est écrasé dans la région de Sébastopol également. Alors il y a peu de chances que ce soit la DCA ukrainienne, puisque comme on le voit, on est à 253 km. Donc il n'y a pas de système antiaérien qui permette de détruire un avion à cette distance. Donc c'est soit un tir fratricide, soit plus vraisemblablement un accident. Le pilote a réussi à s'éjecter et est hors de danger. Passons maintenant sur la ligne de front. Rien de particulier dans la région de Kherson, du côté d'Energodar, du côté de Robotino, du côté de Gouliapol, du côté d'Ougledar, c'est stable. Là où en revanche ça avance bien, c'est du côté de Novomikhailovka, où là les Russes ont quasiment libéré la localité. Alors ce qui permettrait évidemment d'avancer vers Konstantinovka et là de bloquer les approvisionnements, la ligne logistique vers Ougledar. Donc là, évidemment, les Ukrainiens jettent énormément de réserves pour essayer de contenir l'avancée russe, mais les Russes avancent tranquillement, bénéficiant évidemment une fois de plus de la supériorité de la puissance de feu. Ça a bien avancé également du côté de Bakhmout-Chassofyar, où les Russes se sont emparés, en tout cas le ministère de la Défense a on sait qu'ils s'étaient emparés de Ivanovskoye ici, ou Krasnoye, ça dépend comment vous voulez l'appeler. A priori, les Ukrainiens seraient en train d'essayer de contre-attaquer, donc c'est pour ça que j'ai pas mis la ligne rouge vraiment à la frontière. Je pense qu'on aura la confirmation la semaine prochaine. Les Russes ont également approché de la périphérie de Chassofyar. Selon certaines sources, ils seraient même rentrés déjà dans Chassofyar. Mais comme j'ai pas eu de confirmation, je laisse la ligne rouge à cet endroit-là. Voilà, les Russes sont également en train de pousser autour de Severs, du côté de Belogorovka, et du sud vers le nord. Mais pour l'instant, pas de progression significative. Voilà, je retire la ligne de front de la semaine dernière. Voilà où nous en sommes le 29 mars 2024. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas donc à vous procurer nos livres, à vous abonner à Géopolitique Profonde, à prendre des cours de russe avec Logios Online, à vous acheter un VPN, vous procurer un VPN parce que vous en aurez besoin. La censure ne va faire qu'augmenter. En tout cas, les nouvelles sur le front et les nouvelles économiques sont bonnes pour la Russie. Je vous souhaite par avance de joyeuses et saintes fêtes de Pâques. Courage, on les aura.